pour être très large, et je dirais très rapidement, pour balayer un peu les sujets que vous avez évoqués, le col de Spandel, bon, Chantal a dit tout à l'heure, et qu'il avait fallu me convaincre. Bon, c'est vrai que convaincre, je suis convaincu du bien fondé de la départementalisation de cette route, en pensant notamment aux communes qui supportent des itinéraires d'une telle longueur, je crois que ça fait une vingtaine, 23 km. Bon, c'est sûr que c'est lourd à porter, mais le problème, c'est que cette départementalisation arrive à un moment où les départements, j'y reviendrai un peu plus en, tout à l'heure en détail, on est complètement étranglé dans nos dépenses de fonctionnement, nos dépenses encadrées, et comme le col de Spandel, ça sera surtout des dépenses de fonctionnement qui vont peser sur le département. Donc c'est vrai que ça complique les choses. Mais je suis heureux aussi de le faire parce que je réponds à la demande de Chantal et de Louisou, notamment. Et après, bon, ne soyez pas trop exigeants, ensuite n'attendez pas à ce qu'on investisse fortement sur le col de Spandel. On va vous soulager un petit peu de cette charge, déjà moralement, ensuite un peu financièrement. Mais par contre, mettez tout à l'heure pour que sur l'aspect foncier, tout soit réglé, qu'elle puisse être intégrée dans le domaine public communal pour être transférée dans le domaine public départemental. Ça, c'est une procédure qui s'impose. Après, on sera d'une rigueur absolue aussi sur la gestion du bois. La question qui nous traîne les grumes le long de la route, donc là-dessus, il faut être d'une grande rigueur. Et l'ONF devra être un partenaire irréprochable. Pour être bien plus long sur le sujet, mais j'en reste là volontairement à pied actif. Bon, mais Chantal vous l'a dit, bon, c'est quelque chose que personnellement j'ai souhaité. On a 5 700 bénéficiaires du RSA dans le département. Une grande partie resteront au RSA durablement, mais il y a un certain nombre de personnes qui peuvent revenir sur le marché du travail, et que c'est une question de dignité pour la personne et d'efficacité aussi pour les finances du département. Parce que tant qu'à payer 450-500 € par mois un bénéficiaire du RSA, je préfère le donner à un employeur qui soit public, privé ou associatif et qui dit bon, j'embauche la personne, et si la personne s'intègre et se remet sur le marché du travail, et après tout, il sortira des rangs du RSA, parce que le RSA coûte quand même au département 31 millions d'euros par an. Donc là, c'est une charge importante. Donc aidez-nous à soulager cette charge, et c'est autant qu'on réinjectera dans du développement derrière, ce qu'on économise de côté, on réinjecte dans l'économie du département. Donc voilà, soyez attentifs à ces modèles-là. Faites bien attention, parce que je sais que nos services ne sont pas forcément la direction de la solidarité départementale. C'est du social, c'est des gens qui n'ont pas forcément toujours les mêmes éléments de langage qu'il faut pour vous rassurer. Ils peuvent des fois avoir un propos qui vous mettra dans l'incertitude pour conclure un accord ou pas. S'il est besoin, n'hésitez pas à nous appeler pour vous aider à recruter dans une structure associative ici ou là un emploi qu'on va vous financer donc à hauteur de 50% quand c'est dans des emplois du secteur marchand, puisque j'ai devant moi des élus, mais n'hésitez pas aussi à le dire à des entrepreneurs du département. Je vais solliciter les entreprises du département en leur disant embauchez-les, on vous les finance. Et puis si un jour il reste maintenant 2 ans dans l'entreprise, ils ne reviennent pas dans le dispositif du RSA, ils vont chez Pôle emploi, et à ce moment-là, on ne les a plus en charge, même pour une certaine durée. Et là, c'est des économies aussi pour les fonds du département. La puis saveur, pas besoin d'en rajouter, d'être né, élevé et abattu dans le département, c'est de l'économie circulaire. Et donc, on est un département qui capte de l'argent, mais le constat qui touche que là, cet argent ne profite pas à l'économie du département. Si on veut que ça profite à l'économie du département, c'est dans le cadre d'une économie circulaire et à pis aller fait partie de ce dispositif d'économie circulaire. Bon, on a d'autres sujets, les énergies nouvelles, le chauffage, le bois, le photovoltaïque, l'hydraulique, la méthanisation et autres, et plein d'autres sujets que vous pouvez évoquer, mais on ne le fera pas ce soir. Je pourrais simplement revenir lourdement, si je ne vais pas m'étendre sur l'ours, mais bon, je lisais ce matin une note dans laquelle bon, une feuille de route, l'ours et pastoralisme. Dit le ministre de la Transition écologique et solidaire, en outre confie au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en lien avec le préfet coordonnateur de Massy, de mener une concertation et d'identifier les actions à mener dans le contexte départemental. Dans le contexte départemental, notamment le renforcement de la population ursine dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors, comme si les autres avaient une circonscription administrative, ils sont affectés aux Pyrénées-Atlantiques. Ça, ça ne tient pas, on ne peut pas soutenir ça. C'est de massif que ça doit être. Ça doit intégrer les Pyrénées-Atlantiques, mais les Hautes-Pyrénées, mais aussi l'Ariège, parce que c'est l'Espiol, ça évolue d'un autre côté. Et en même temps, nos amis espagnols également, parce que je crois que les deux ours qui ont été lâchés l'année dernière, il y en a un qui est, je sais pas, qui est à Ferrière et une autre en Espagne. Voilà. Donc, un modèle départemental, ça ne sert absolument à rien. Donc il faut que ça soit vers le sud et nord des Pyrénées et que ça soit interdépartemental pour que c'est du sens. Après puis qu'on ne réintroduise plus. Après, pour tout le reste, améliorer la communication concernant la présence de l'eau, où il y a un tas d'objectifs qu'on pourrait partager, mais pas forcément le fait de ramener des eaux dans le département. Bon, j'ai voulu rapidement revenir très rapidement sur les sujets qui avaient été très bien développés par vos deux conseillers départementaux. Il était normal que je vous donne aussi ma position de solidarité avec eux. Bon, au niveau du département, bon, l'approche budgétaire, bon, vous votez ce soir, vous avez rentré de l'argent qui n'est pas encore voté.
Vous avez rentré 754 000 euros,
bon, qui seront votés dans le cadre du budget de la semaine prochaine. Budget qui a été difficile à monter, surtout dans le domaine du fonctionnement. Ce qui ne vous a pas échappé que l'année dernière, le gouvernement nous a fermé, fait partie de ces 300 collectivités qui, toutes n'ont pas signé le contrat avec l'État. Moi, j'ai proposé au niveau du département le signe de ce contrat avec l'État, parce qu'on est des départements fragiles. Je vais essayer de vous expliquer le plus succinctement possible. On ne signe pas le contrat avec l'État, ce n'était pas une obligation, si nos dépenses de fonctionnement dépassaient de 1,2% le montant du compte administratif de l'année précédente, c'est-à-dire sur des dépenses de 1,2%, on avait par exemple 288 millions d'euros, en gros, de dépenses de fonctionnement lesquelles pouvaient évoluer. Si on dépasse 290 millions d'euros, on a dépassé 2 millions d'euros de plus. On est pénalisé au niveau de la DGF de 100% si on n'a pas signé le contrat, c'est-à-dire qu'on a 2 millions d'euros de DGF en moins, et de 25% si on a signé le contrat. Donc, compte tenu de la fragilité dans laquelle on était, je préférais qu'on signe. Bon. La chance a voulu qu'on ait rentré pile poil dans les 288 millions à quelques centaines de milliers d'euros près. Voilà, j'ai une affaire de 400 ou 500 000 euros. À 400 ou 500 000 euros près, on est rentré dans les 288 millions. Mais admettez qu'il aurait neigé abondamment en novembre et en décembre. En viabilité hivernale, on dépense facilement 1 million d'euros en un mois. Et à ce moment-là, on sortait des coûts. Donc on aurait été pénalisé au niveau de la DGF 2019. Voilà pour les raisons pour lesquelles je souhaitais que l'on signe. Nous avons fixé nos conditions, que j'ai été signé avec la préfet. On avait jusqu'au 30 juin, et on a signé le lundi 1er juillet ou 2 juillet, je ne me rappelle plus quel jour exact. On aurait dû signer le vendredi, on a signé hors délai. Et j'ai dit à la préfet que de toute façon, ce contrat, tel que je vous le propose, il est à prendre ou à laisser. Si vous ne le, si l'État ne veut pas le signer, dont acte le président de la République le 25 juillet pour le Tour de France, et s'il me dit pourquoi ne pas signer ce contrat, je lui expliquerai que l'État s'est montré inflexible dans des prises de position, et donc, s'il ne me le demande pas, c'est moi qui lui dirai. Et donc la préfète a fait remonter cette réaction à la direction générale des collectivités locales, qui au dernier moment lui a dit allez-y, signez. Bon, après, l'État a plus ou moins respecté sa parole, mais ça, on y est habitué. Mais voilà dans quelles conditions les choses se sont passées. Alors, c'est un encadrement de dépenses avec 1,2% de dépassement par rapport au compte administratif de l'exercice antérieur. Pour certains départements, ce n'est pas forcément un effort important. Pour nous, oui. Parce que depuis 2011, tous les ans, on a taillé dans le gras pour faire des économies dans tous les domaines. Et ce n'est pas simple. Je vous cite quelques exemples, parce que vous ne connaissez pas, vous receviez tous un agenda, et il a fallu supprimer des dotations comme ça. Le temps de travail a été en gros à 32 heures par semaine, il a fallu, on est remonté, une des rares collectivités, à être repassé de 32 à 35 heures pour rechercher des économies et de la productivité. On allait au salon de l'agriculture à Paris pendant une semaine, je suis sous contrôle de code de l'attentat, on n'y va plus qu'un jour, le mercredi. Bon, et plein d'autres sujets comme cela, bon, cabinet, effectivité des chauffeurs, on ne passe pas. Cette année, on va devoir supprimer une trentaine d'emplois. Donc, là, on est dans de la gestion. Alors, donc, compte tenu qu'on était quelque peu à l'os en matière de réduction, cette année, on a dû aller encore plus loin. Là, je vous citais un exemple concret. Il y avait des bourses départementales, on avait un budget de l'ordre de 300 000 euros pour donner des bourses départementales, 5 000 euros ici, 4 000 euros ailleurs, pour des enfants ou des jeunes qui font des études secondaires, et on a dû supprimer cette politique volontariste parce qu'on ne rentrait pas dans les coûts. Donc, ce qui est les aides au sport et autres, on va devoir rentrer maintenant, une fois le budget voté, dans des coupes pour expliquer que, là, voilà, il faudrait bien. Alors, on vote un budget la semaine prochaine en rentrant dans ce cadre contraint, mais en même temps, je peux dire aussi qu'on vote un budget avec 60 millions d'euros d'investissement, c'est-à-dire qu'on soutient malgré tout une politique d'investissement forte. Ça fait quand même cinquième ou sixième année, sur lequel même plus, où on maintient un budget d'investissement relativement élevé, où on n'augmente pas la fiscalité, parce qu'on est quand même avec un niveau de fiscalité, on était 9e, on était dans le top 10 de la région du top 14, de linguistique, mais on est 14e du département en France en termes de pression fiscale. Donc, bon, il y a suffisamment d'impôts, il y a suffisamment de contestations par rapport à tout ça, où je ne juge pas utile de mettre de l'impôt supplémentaire, parce qu'en plus l'impôt ne rapporte pas fortement chez nous, parce qu'on est au point de fiscalité, c'est 750 000 euros, donc ça ne change pas la face du budget. Obligation dans le cadre du contrat de maîtriser notre endettement, maîtrise de la dette constante, maîtrise de la fiscalité, et malgré tout un budget à 60 millions d'investissements. 60 millions d'investissements, ben voilà, 60% de ces 60 millions, c'est pour les besoins du département, pour les 3000 km de route départementale, l'entretien des bâtiments, la modernisation des bâtiments départementaux. De ce point de vue-là, on fait des efforts importants pour moderniser. Et on a créé quand même plusieurs structures ces dernières années, la maison de l'enfance et la famille sur le secteur de la ZAC de l'Ormont. La maison départementale de la solidarité à Bagnères, l'hôtel du Prado que certains d'entre vous connaissent. On a un autre chantier sur la rue Gaston-Malin. On va refaire le bâtiment de la place Ferré qui est au giratoire, pas loin du parc national. Et on va aussi construire les archives départementales. Je ne vais pas m'étendre le moment sur le sujet qui a été douloureux. Mais voilà, bon, on investit fortement. Donc 60% pour nos besoins, 40%, je de 35 à 40. Hein. Donc, de 35 à 40% en aide au développement local. Le phare fait partie de ces politiques d'investissement. Toutes les politiques territoriales, venant par ailleurs, le tourisme et autres, font partie de l'aide au développement local. Donc voilà, bon, cette volonté, malgré tout, malgré toutes les contraintes qui pèsent sur nous, de soutenir l'investissement, de soutenir la création de richesses, de soutenir, d'accompagner les collectivités que vous êtes, ben c'est quelque chose qu'on a, je crois, chevillé au corps et sur lequel on ne reculera pas. Voilà, ceci dit, quand on a fait le tour de tout ça, c'est pour, on n'est pas quand même totalement sorti de l'auberge. Mais bon, on fait face. J'ai dit autour de moi, il faut nous aider à aller chercher des fonds européens. On va chercher des. On est le département qui a émargé le plus sur les fonds européens des crédits transfrontaliers, du POTEFA. On va encore chercher des fonds européens par la création, Chantal a fait une tablette tout à l'heure, de la GECT, de groupement européen de coopération territoriale avec le département des Pyrénées-Atlantiques et le gouvernement d'Aragon. On avait, nous, le consortium pour la gestion du tunnel d'Aragon. Eux, ils avaient un GECT pour l'étude de passage par le col de Portalet. Nous, on avait un troisième GECT pour la gestion des itinéraires touristiques et de la visite des grands sites sur les versants sud et nord des Pyrénées, tous les produits agroalimentaires et les spécialités de ce territoire. Là, les trois structures, j'ai proposé aux Aragonais de n'en faire qu'une, ils y en iraient d'emblée. Je l'ai proposé au département du 64. Qui a hésité un peu, mais qui aujourd'hui est 100% partant. Donc, on va créer ce GECT dans les prochaines semaines, dès que l'État français nous a donné le feu vert, parce qu'il nous faut le feu vert du préfet de région Occitanie et du préfet de région Nouvelle-Aquitaine pour le département 64, et ensuite on crée cette structure avec l'objet tourisme et mobilité. Mobilité, c'est pouvoir passer d'un versant à l'autre facilement, mobilité sous diverses formes, y compris le développement de l'hydrogène, des énergies nouvelles et autres, tourisme, parce qu'on crée des itinéraires touristiques autour de ce territoire. On a des choses qui ont eu un très grand succès, qui ont été initiées par HPDE, les road trips, ça nous permet de partir par exemple de Tarbes ou de chez nous, d'aller passer par le col du Portalet ou par le Somport et sur les grands sites espagnols, de revenir par le tunnel d'Aragon, voire même par le tunnel de Viela. Ça nous a valu des reportages médias sur des grands médias, notamment Figaro Magazine, Parisien, les trucs qui nous ont amené des clientèles intéressantes et je peux vous dire que ça a fait du buzz un peu sur la centrale de réservation d'HPDE. Et je veux dire, les Espagnols, ils sont ravis de tout ça, parce que ça leur amène des clientèles nouvelles sur ces itinéraires, et ça fait connaître ce territoire. Donc voilà, ce GECT nous permettra en même temps, je l'espère, d'aller chercher des fonds européens pour divers types d'aménagements. Je voulais vous dire, bon, sur le budget, si éventuellement on me repose des questions, peut-être que je pourrais vous accompagner. Chantal avait souhaité que je vous parle un peu d'Orange. Du contrat avec Orange. Bon, ça aussi, quelque chose que j'ai négocié pied à pied, et qui a suivi le dossier à mes côtés, c'est Corinne Pereira, où on a démarré avec un premier projet avec 88 communes, on est passé à 94, de 94, on est passé à 106, de 106, on est passé à 300 quelques. Rester un territoire qui était le territoire est hors Rouen, territoire qui est une partie de la Varrousse qui n'était pas couvert par ce périmètre-là, Au final, je suis arrivé à les convaincre de prendre 100% du département. Alors bien sûr, ils ne vont pas faire 100% des communes en 2020, en 2021. Ça s'étale sur un certain nombre d'années, jusqu'en 2024. Mais c'est quand même des économies énormes pour le département, parce que la plupart des départements ont mis la main à la poche. On est le seul département pour le moment, le seul département en France qui a ce modèle-là. Et, bon, France Télécom, Orange m'invite à ne pas trop le dire, parce que ça leur fout le bazar avec d'autres départements, je peux le comprendre. C'est pour ça que je préside à le dire ici, mais on est le seul département, avec le territoire de l'emploi, à avoir obtenu un tel niveau d'investissement de la part d'Orange. Aujourd'hui, Orange n'est pas la fibre à Bagnères de Bigorre, à Besançon, à Vic, à Julien, à Tarbes dans le cadre de la zone AMI, à Lourdes dans le cadre de la zone AMI, mais dans toutes ces autres villes. Ouais, et ensuite, ils vont attaquer tous vos territoires. Alors, je sais que pour ceux qui sont un peu plus loin, 2023-2024, c'est toujours très long, il y a des initiatives, peut-être une technique, une technologie Wi-Fi, quoi que c'est le cas à l'ISPER, ou à Sirex, plutôt à Sirex, excusez-moi, à Sirex, et je sais que sur le Pays d'Oc, il y a une initiative en cours. Moi, je ne pose pas de problème si ça vous permet de gagner du temps en attendant que la fibre arrive chez vous, parce que c'est le contrat avec Orange, c'est la fibre chez la Monique. C'est pas la radio, c'est la fibre chez la Monique. Donc, voilà, ouais, c'est un contrat quand même. Si on n'avait pas eu cet accord avec Orange, et bon, les amis sont témoins quand même des échanges que j'ai pu avoir. La qualité des relations que j'ai établies avec Orange, parce qu'elles n'étaient pas bonnes en 2011, j'ai établi une qualité de relation constructive, amicale, on va dire. Bon, ça m'a fallu aller, compris à Paris, signer avec le grand patron d'Orange, comment il s'appelle
Richard.
Oui, Stéphane Richard, hein, et je n'avais pas vu son nom. Bon, et. Voilà, bon, c'est un modèle qui, et aujourd'hui, ils sont pleinement engagés. Et j'en profite pour dire que la crainte que j'ai, c'est qu'il n'y ait pas suffisamment de main-d'œuvre pour faire ce chantier. Et qu'ils ont accepté, à travers la démarche projet de territoire, en lien avec la Chambre des métiers, de faire une formation pour des gens pour apprendre à déployer, voilà, qui étaient au chômage, ou RSA, et qui ont. Qui apprennent à déployer la fibre, à faire la souder et à toutes les technologies qui vont avec. Et je souhaite qu'ils en fassent d'autres, parce qu'il serait anormal de prendre des centaines de bénéficiaires du RSA, par même que les entreprises n'auraient pas de main-d'œuvre, de la faire venir, de Chine, oui, parce qu'il y a un groupe, il y a le groupe Huawei qui vient pour développer, parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'entreprises dans le territoire, c'est un groupe chinois. Qui viennent pour déployer la fibre dans le département. Il y a la SAD de côté et Huawei, qui est un grand groupe chez moi, qui est sur le département pour déployer la fibre. Voilà. Donc, ce contrat.